Soyez les bienvenus, vous tous, en ce temple, pour ce jour de Noël. Nous sommes venus célébrer la venue dans le monde de celui qui est lumière, vraie lumière, pour tout humain vivant dans ce monde. Jésus le Christ, Fils de Dieu, Prince de la paix, vient nous révéler le visage du Père. Et ce qui nous arrive, c'est une douceur qui éveille le cœur à la joie d'être, à la joie de naître. Ce qui nous arrive, c'est que Dieu n'a pas d'autre chemin que nous pour venir jusqu'à nous. C'est en nous, au berceau de notre âme, qu'il revient de bercer le Christ. Noël, c'est la vie déposée entre nos mains, en nous, par Dieu qui espère en nous. Alors, laissons-nous entraîner dans la joie de tous ceux qui, autrefois comme aujourd'hui, ont reconnu en Jésus-Christ celui qui devait venir, le Sauveur attendu. Je vous invite à prier. Nous voici, ô notre Dieu, nous qui marchons de jour comme de nuit, venus pour entendre ta parole qui dépose un air de fête sur la terre désemparée. Que ton esprit souffle, que ta parole résonne, que le Christ lève une aurore nouvelle. Et nous, nous sommes venus pour les accueillir, pour leur faire place en nous, pour entrer dans ta présence qui nous bénit. Amen. Nous chanterons le premier des spontanés de la feuille de culte. Je vous invite à vous lever. Restons debout pour le temps de la louange dans laquelle Vincent va nous conduire.
Notre Dieu soit loué d'avoir en cette nuit tout renouvelé. Sois loué d'avoir gardé dans ta paix nos cœurs alourdis. Sois loué de nous donner encore la fraîcheur d'une aurore pour faire éclore nos vies. Sois loué de faire renaître en nous ton amour comme l'enfant nouveau-né dans la crèche. Sois loué pour cette présence qui est la tienne pour toujours au cœur de l'humanité. Sois loué, notre Dieu, d'être notre paix. Amen. Alléluia.
Et nous poursuivrons la louange avec le chant du cantique 177 au peuple fidèle.
Thank you.
Prenez place. À quoi sommes-nous appelés ? À commencer à donner passage à Dieu sous les gestes du quotidien, et que l'instant devienne prière. Nous sommes appelés à commencer à donner de l'espace à Dieu dans les houles du cœur, et que le regard devienne paix. Nous sommes appelés à commencer à donner à Dieu un visage au creux des inimitiés, et que toute rencontre devienne lumière. Amen. Nous recueillons dans la prière de confession que Vincent va dire maintenant.
Béni sois-tu, Dieu notre Père, dans l'enfant qui vient à nous dans la nuit de Noël, c'est de naissance que tu nous parles. Mais cette naissance ne va pas sans peine, et pour que notre prière soit vraie, nous te confions maintenant la vérité de nos cœurs. Ce désir de vivre pleinement Noël et nos questions sur cette fête, notre envie d'être dans la foi et nos résistances à croire, notre faim de sens et nos incohérences, notre soif de relations vraies et nos difficultés à vivre les uns avec les autres. Toutes ces contradictions qui nous habitent, nous les déposons devant toi. Dieu notre Père, non pour que tu les effaces, mais pour que tu les retournes en chemin de vie. Amen.
Je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce du pardon. En Jésus le Christ, Dieu s'est lié aux vivants de la terre, solidaire de leurs épreuves et de leurs relèvements, solidaire de toute notre existence, naissance, désir, mort, amour. Le voici fidèlement engagé avec nous. Nous ne sommes pas seuls, ni isolés, ni abandonnés, ni rejetés. Dieu fait cause commune avec nous. En tout lieu, en tout temps, il est Emmanuel. Dieu avec nous, pour nous donner grâce et paix, joie et confiance, espérance et vie éternelle en abondance. Amen. Et nous chanterons au cantique 171, ces jours de joie, jours merveilleux. Nous chantons le cantique 171 en entier. Ah, vous ne le connaissiez pas, hein? Bon, prenez place. Nous prions avant d'ouvrir les Écritures. Notre Dieu, en ce jour de Noël, ouvre les cœurs et les esprits à ta parole vivifiante. Qu'elle prenne corps en nous, qu'elle nous oriente dans la lumière du Christ, et que nous répondions à ce don merveilleux dans un élan de reconnaissance et de foi, un élan de liberté et de responsabilité. Amen. Et nous lirons aujourd'hui dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2, les versets 1 à 20. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre habitée. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et l'installa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle. Il y avait dans cette même région des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur survint devant eux et la gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. » Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts ». Et sur la terre, paix parmi les humains en qui il prend plaisir. Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils s'y rendirent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendirent s'étonnèrent de ce que disaient les bergers. Marie retenait toutes ces choses et y réfléchissait. Quant aux bergers, ils s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Nous pourrions imaginer que les bergers, en arrivant au lieu où le nouveau-né est couché dans la mangeoire, s'écrient ou murmurent ou se disent à eux-mêmes en silence « Eureka ! J'ai trouvé !» Mais ils ne le diraient pas comme Archimède, le mathématicien grec, découvrant dans son bain le principe de ce qui sera appelé plus tard la poussée d'Archimède, vous savez, tout corps plongé dans un fluide, etc. Archimède dans son bain, c'est quand même une légende, hein. Mais reste que le savant de Syracuse a cherché à résoudre un problème qui lui était posé et qu'il a trouvé la solution, alors « Eureka !» Mais ce n'est pas la solution à un problème que les bergers ont trouvé à Bethléem. Ils ont trouvé ce que l'ange leur avait dit qu'ils trouveraient, comme l'ange leur avait dit qu'ils le trouveraient. Ils n'ont pas eu beaucoup à chercher. Ils sont allés en suivant les paroles et les indications de l'ange. Les bergers sont des gens qui mènent une vie rude. Et en plus, on leur mène la vie dure par mépris et par manque de considération. Les bergers sont des gens de peu, voire de rien. Leurs paroles ne comptent pas. En bloc, ils sont rassemblés dans une catégorie tout en bas de l'échelle sociale. Et ce sont pourtant eux qui sont, par choix de Luc pour son récit, les premiers bénéficiaires de l'annonce de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et l'annonce est complétée par un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Mais quel étrange signe! Un nouveau-né emmailloté, couché dans une mangeoire. Mais qui d'autre que ces bergers, ces pauvres, ces déclassés, pourraient faire crédit à un tel signe, un nourrisson déposé dans une mangeoire? Un signe tellement petit, tellement modeste, tellement humble. Rien à voir avec la belle étoile qui guide les mages dans l'évangile de Matthieu. Rien de plus banal qu'un nouveau-né. Et un nouveau-né dans une mangeoire, au mieux c'est pitié. C'est à détourner le regard, ou c'est carrément insignifiant. Mais c'est quand même du Sauveur, du Christ, du Seigneur dont parle l'ange. Et pourtant, toute l'armée céleste réunie en chœur ne change rien à la petitesse de ce signe et à sa fragilité. Et que le signe du Sauveur, que le signe du Christ soit si discret, si peu évident, indique au lecteur de l'Évangile que les signes du royaume seront ainsi repérables. Ils seront sur la paille du monde, à l'écart des foules, sans tambour ni trompette, sans la gloire des puissants de la terre. Car c'est bien pour aujourd'hui, n'est-ce pas, que nous lisons ce vieux récit. Non pas pour prouver quoi que ce soit concernant Jésus, non comme un rapport de fait, non comme une belle histoire qu'on peut raconter seulement aux enfants. Nous lisons ce récit parce que nous croyons, d'une manière ou d'une autre, que la nuit du monde, aussi profonde soit-elle, est trouée. Trouée de lumière, d'étoiles, d'anges. Et que l'obscurité n'est ni l'origine ni l'horizon du monde. Nous lisons encore une fois ce récit pour entendre et comprendre une orientation pour nos existences et une interprétation du monde dans lequel nous vivons. Alors nous pourrions désespérer un peu de ce que face au déchaînement des violences, des affrontements, des mépris, face à l'accumulation des malheurs et des misères, nous n'ayons pour signe du Christ, pour signe du royaume, que quelque chose de semblable à un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Nous pourrions nous dire que si les signes du Christ, les signes du royaume sont si faibles, si humbles, nous courons le risque de passer à côté, de ne pas les voir, et qu'alors l'obscurité, les ténèbres, la nuit en seront encore plus noires. Mais l'ange a dit au berger, vous trouverez. Vous trouverez. Ce n'est pas une énigme. Ce n'est pas un mystère, ni une chasse au trésor, ni un escape game. Ce n'est pas un exercice, ni un problème de mathématiques, ou autre pour lequel il faudrait mettre en œuvre des capacités particulières du savoir, de l'intelligence. Ce signe du Christ n'est pas non plus une récompense au terme d'une performance personnelle ou d'une compétition avec d'autres. Ce n'est pas la quête du Graal. Et ce n'est pas non plus une surprise qui attend les bergers. Ils ont tous les renseignements nécessaires. vous trouverez à Bethléem un nouveau-né emmailloté, couché dans une mangeoire. Mais pour le trouver, il faut y aller. Ils auraient pu rester au coin du feu, sous la voûte étoilée, à veiller leur troupeau. Mais pour trouver le signe, il faut aller à Bethléem et chercher un petit peu où est ce nouveau-né emmailloté couché dans une mangeoire. Pour le trouver, il faut se déplacer et chercher, mais sachant déjà ce qu'est le signe. Pour le trouver, il faut en avoir envie, le vouloir, le désirer, en avoir envie comme désir qui touche à la racine et qui tient la vie, le fait d'être vivant, pour un peu plus que travailler, manger, dormir et recommencer. Et au XXIe siècle, en plus de travailler, manger, dormir, s'ajoute consommer, qui est devenu bien autre chose qu'un acte délibéré, autre chose qu'une décision, mais une manière d'être, comme une seconde nature, difficile à mettre en question puisqu'elle semble naturelle. Ce qui fait se lever pour trouver le signe du Christ, le signe du royaume, c'est l'envie de vie. Une vie qui continue à donner envie de vivre et de rester vivant, sur un horizon qui ne soit pas seulement celui des nécessités biologiques et des contraintes imposées. Il est né un sauveur, annonce l'ange. Sauveur de l'absurdité et du non-sens, mais pas des épreuves. Sauveur du désespoir, mais pas des efforts. Sauveur des esclavages intérieurs, mais pas des tyrans et des dictateurs des peuples. Vous trouverez. Les bergers devront se lever, se déplacer, même s'ils ne sont pas très loin. Ils n'auront pas à faire un grand voyage comme les mages de Matthieu. Bethléem, ce n'est pas loin. C'est à portée de pas d'homme dans la nuit, à portée de pas d'humain dans l'obscurité. Nous trouverons le signe du Christ, signe du royaume, à deux pas, à trois pas de nous, humble et proche, à l'écart mais accessible, à notre portée d'humain et de notre désir de vie, envie de vie, semée en nous, en chacun comme en tous, une semence divine de vie vivante en notre humanité. Certes, un, deux ou trois pas peuvent être difficiles à faire, surtout quand ce sont des pas de côté, c'est-à-dire une manière de regarder différente. Chercher dans la paille, dirait l'ange, car les bergers n'auraient pas pu trouver l'enfant dans un palais, de toute manière, on ne les aurait pas laissés entrer. Alors c'est à Bethléem que les bergers trouveront le signe. À Bethléem, la ville de David, oui, parce que le Messie, le Christ attendu, est venu cette nuit-là, est de la descendance de David. C'est donc le lieu où trouver le signe de la bonne nouvelle. Mais pour nous, il n'est pas question d'aller à Bethléem. Sauf le Bethléem qui signifie la maison du pain. Nous, nous trouverons le signe du Christ, le signe du royaume, là où nous recevrons de la nourriture, des forces, du courage, du réconfort d'âme et une espérance pour le lendemain. Nous le trouverons là où se partage ce qui donne envie de vivre et fait vivre de vie humaine, de vie vivante, pas seulement la subsistance pour le corps, mais l'énergie et le goût d'être vivant et vivant avec d'autres. Partage d'une miche de pain, comme celle que nous partagerons tout à l'heure lors de la scène, dans une communion de vie donnée, une communion de fraternité, de bénédiction à recevoir avec le pain distribué. Nous trouverons le signe du Christ, le signe du royaume, là où notre humanité sera nourrie et où elle grandira, là où notre capacité à aimer grandira, là où notre courage d'être grandira, là où la joie d'être ensemble grandira, là où la peur diminuera, là où l'épuisement de vivre refluera, là où le désespoir sera réduit, là où les égoïsmes rétréciront. nous trouverons un signe qui sera comme un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et ce sera comme un commencement, une aube, un frémissement. Pas une manifestation de grandeur ou de puissance, mais une fragilité, une vulnérabilité qui ne s'imposera pas et n'imposera rien. Un signe comme un appel à notre présence, à notre initiative, à notre imagination, à notre action, pour que cette fragilité ne soit pas écrasée par une expression de force ou une exigence d'assurance ou une sommation de compétences. Le signe du Christ, signe du royaume, c'est une fissure dans un mur, une faible voix dans une cacophonie, un tremblement dans un couvercle de plomb. C'est comme une bouée jetée à la mer. Un nouveau-né a besoin que d'autres prennent soin de lui pour l'emmailloter, le nourrir, le bercer, lui parler. Son impuissance même est un appel à l'aide. Mais sa présence fait lever une tendresse, une douceur, une patience qui écarte les déterminismes. Ce nouveau-né grandira et l'on ne sait pas quel homme, quel Christ il deviendra. Cette impuissance affranchit de la gloire pour désigner l'humilité. Elle libère de la puissance pour ouvrir des possibles. Un nouveau-né comme signe des routes de l'exigence d'assurance, de force ou de compétition qui pèsent sur les humains. Il décale de l'impératif de prouver, de justifier, de devoir se faire soi-même, par soi-même, un nom ou une place. D'ailleurs, la place de ce nouveau-né, c'est une mangeoire, écrit Luc, parce qu'il n'y avait pas de place pour lui dans la salle commune. Il est déposé hors de l'organisation bien rodée de la société de l'Empire romain, de ses commerces en tout genre. Il est déposé hors des systèmes religieux, déposé hors des normes, à la marge, déposé comme une nourriture, pain de vie d'une abondance qui ne doit rien aux comptes qui tiennent souvent lieu d'ordre du monde. Ce n'est plus l'Empire romain qui dicte la loi, mais d'autres empires pas forcément géographiques ou politiques. Les César Auguste et Quirinus d'aujourd'hui portent d'autres noms. Mais ce qui est imposé aux humains d'aujourd'hui ne leur apporte ni la paix ni la joie d'être vivant avec d'autres. Et l'espérance peine souvent à surmonter ce qui veut l'étouffer. Un signe comme un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire semble bien dérisoire dans ce monde qui tient au compte. Mais le signe de la bonne nouvelle, le signe du salut, le signe du royaume n'est pas autrement, parce que c'est ainsi qu'il est signe qu'en vérité l'avenir n'est pas écrit, même si César Auguste et ses multiples successeurs s'évertuent à faire croire le contraire, parce que ceux qui sont les maîtres du monde ne peuvent pas laisser croire que le monde pourrait être autrement que ce qu'ils en ont fait. Mais le nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire est le signe que si. Il est le signe, encore et toujours, la possibilité, l'invitation, l'offre, l'appel d'un monde nouveau. Du nouveau-né de Bethléem au crucifié du Golgotha, et au ressuscité de Pâques. Et nous trouverons des signes, modestes, humbles, fragiles, parce qu'ils ne peuvent pas être autrement. Nous trouverons le goût de la vie qui naît et qui ressuscite, le goût du pain et de la communion, l'envie de vie, d'être vivant, qui repose en chacun, graine de Christ, qui ne grandit pas en orgueil, mais en service, en partage et en don. Nous trouverons. C'est Noël. Un jour pour aller encore chercher et trouver les signes de la bonne nouvelle qui seront comme un nouveau-né emmailloté, couché dans une mangeoire à Bethléem. C'est Noël aujourd'hui. Mais bien sûr, ce peut être Noël chaque jour. Amen.
Dieu est plus grand que notre cœur, Dieu au-dessus de nos pensées, il est juste et bon de te remercier en tout lieu, où se lèvent des hommes et des femmes pour marcher dans le droit, la justice et l'amour, pour tendre à autrui une main fraternelle, pour briser les barrières des haines et des méfiances séculaires. Père de toute l'humanité, recueille nos vies et rassemble ton peuple, à l'heure où nos voix s'unissent pour proclamer ta gloire en Jésus, le Christ, notre Sauveur et notre Frère.
Nous nous levons pour chanter au cantique 183, auquel éclat sur nos matins.
Thank you.
C'est pour nous rendre plus humains et plus fraternels que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « C'est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe après le repas en disant « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Nous nous rassemblons dans la prière.
À la table où tu nous invites, notre Dieu, nous avons déposé un peu de pain, un peu de vin. Ils sont les signes de notre vie quotidienne. Par ton esprit, qu'ils deviennent aussi les signes d'une vie nouvelle et de la venue et de la présence parmi nous de Jésus, ton Fils, notre frère. Voilà pourquoi nous sommes ici devant toi, Père. Et tout rempli de joie, nous nous souvenons de Jésus le Christ. Donne-nous d'entrer dans ton bonheur à l'image de celui que tu nous as envoyé, notre Sauveur et notre frère. Sur lui, ton esprit a reposé. Il a été parmi nous cette lumière qui réconforte et réjouit. Nous te remettons celles et ceux qui sont dans l'ombre et ne trouvent pas la lumière. Nous te confions celles et ceux qui vacillent sous le choc d'un échec, d'une séparation, d'un deuil ou d'une maladie. Recueille dans ton amour de Père les blessures qui nous font boiter et permets qu'un goût de naissance rejoigne celles et ceux qui chancellent dans la confiance en eux-mêmes. Père, béni sois-tu pour celles et ceux qui rendent témoignage au Christ en répondant aujourd'hui encore à l'appel de la vie. Que toute joie soit partagée, que tout amour soit multiplié, que toute confiance soit augmentée et que l'espérance soit ravivée. Voici les nôtres. Nous te les remettons afin que l'impossible pour nous devienne possible par toi et en toi. Nous élargissons notre prière aux dimensions du monde, traversées de violence, mais en attente de paix, et en communion avec tous ceux et celles qui te reconnaissent comme Père des humains, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous
nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux
qui nous ont offensés.
Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire.
Voici, dit Jésus le Christ, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, je prendrai le repas avec lui et lui avec moi. Nous sommes tous invités à ouvrir la porte, quelles que soient nos appartenances, nos croyances. Du moment que nous voulons témoigner de notre confiance en ce Jésus qui partageait le pain, les joies, les souffrances des humains et enseigner ainsi la fraternité. Amis, frères et sœurs, pour cette scène aujourd'hui, en ce jour de Noël, nous vous invitons à faire le cercle de communion que nous n'avons pas fait depuis fort longtemps. Peut-être en nous tenant un petit peu à distance, en gardant nos masques, mais nous pouvons faire un cercle, alors peut-être en traversant un moment dans les rangs, nous tenir les uns à côté des autres Et si vous ne souhaitez pas communier, vous avez votre place dans ce cercle parce qu'il est un cercle de communion d'humanité. Et simplement, lorsque le pain et le vin passeront, vous n'en prendrez pas si vous ne le souhaitez pas. Mais venez, tout est prêt. Rassemblons-nous. Voilà ce cercle de communion qui signifie que nous sommes tous, frères et sœurs, d'égale dignité, appelés à la même vie éternelle. Vous avez quelqu'un à votre droite, quelqu'un à votre gauche. Je vous invite à le saluer simplement, en signe déjà de communion et de reconnaissance fraternelle. Passeront parmi vous pour distribuer à chacun un morceau de pain et un petit verre de vin. Mais avant de communier, nous attendrons que tout le monde ait reçu le pain et le vin et nous communierons ensemble à ce moment-là. Nous rompons le pain. Il est la communion au corps du Christ donné pour nous. Le Christ vivant met en nous sa vie pour que notre vie devienne sienne. Et nous disons merci pour la coupe. Elle est la communion au sang du Christ versé pour nous. Le Christ vivant verse en nous sa vie, comme un sang nouveau, comme un vin de fête, pour que notre vie devienne sienne dans l'espérance et dans l'amour. Prions. Dieu de toute fidélité, nous débordons de reconnaissance pour les signes de ton amour et pour le don de ton Fils. Merci pour la fête que tu allumes en nos cœurs par le partage du pain et du vin. Merci pour ta nourriture de vie qui nous fait grandir dans la vie éternelle. Merci pour la communauté rassemblée qui chante ta louange. Merci d'ouvrir à nos yeux ton royaume de justice et de paix. Garde-nous vivants de ton souffle, afin que nous annoncions des jours nouveaux et heureux. Amen. Je vous invite à regagner vos places dans la joie du Christ vivant. Peu d'annonces aujourd'hui, juste pour vous dire qu'il y aura culte demain dimanche, le 26 décembre à 10h30 ici dans ce temple, que ce sera un culte un petit peu différent avec une liturgie plus courte et puis surtout beaucoup de musique grâce à Fred. Donc à demain à 10h30 dans le temple, je serai absente la semaine prochaine et puis comme c'est les vacances, il n'y a pas d'activité. Mais il y aura culte évidemment le dimanche 2 janvier pour bien commencer l'année. C'est notre ami Didier You qui présidera ce culte. Et puis le 2 janvier, si c'est autorisé toujours, il y aura aussi l'après-midi à 17h30 la cantate, la première cantate de l'année 2022 dont j'ai oublié le numéro, mais c'est sur le site et vous le trouverez sur le bulletin. Et demain, comme tous les dimanches également, collecte de produits de première nécessité, alimentaire, hygiène et entretien au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge. Est-ce qu'il y a d'autres annonces, d'autres choses à se dire? Non. Nous souhaiterons un bon Noël à la sortie tout à l'heure. Voici donc le moment de l'offrande, d'un geste de communion, un autre geste de communion libre et joyeuse. Et pendant cette offrande, nous chanterons au cantique 182, « Ô Seigneur de la terre ». Le 182. Après l'exhortation, nous ne chanterons pas le dernier spontané des feuilles de culte. Nous chanterons un cantique que j'ai oublié de faire afficher, qui sera le cantique 181. Vous, les fleuves, les rivières. Nous le chanterons avant la bénédiction finale. Juste une précision, Fred. Pour le 181, on chantera l'antienne après chaque strophe ou juste à la fin? Le Alléluia. On ne chante pas? Eh bien alors on ne chantera pas. On ne chantera que les trois strophes. Alors je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation. Martin Luther écrivait: il t'est impossible de reconnaître Dieu sans dommage, sans erreur, par ton imagination ou par tes spéculations. La seule voie est de te tenir devant sa crèche, la mangeoire. Si tu suis le chemin inverse, si tu commences à réfléchir sur sa divinité, si tu cherches à savoir si Dieu a prédestiné tel ou tel homme, tu te casseras aussitôt le cou et tu tomberas du ciel comme l'esprit malin. Mon cher, n'escalade pas le ciel. Va d'abord à Bethléem. Et l'ange ajoutait : vous trouverez. Le 181, donc uniquement les trois strophes. Que le Dieu de toutes les naissances fasse advenir en nous la plus belle des naissances et nous transforme en fils et filles de son amour. Qu'il nous garde dans sa lumière et dans sa paix. Amen.